journal.
Et au sommaire de ce journal, l'hommage des avocats à leur bâtonnier assassiné. Il y a 7 ans, Antoine Solacaro était tué. Hommage dans les palais de justice d'Ajaccio et de Bastia. Nous parlerons aussi dans cette édition de votre taxe foncière, de la qualité de l'air que nous respirons et du tri des biodéchets. Puis invité pour comprendre l'économie de la Corse, l'INSEE qui présente une étude sur l'emploi et les salaires. Et puis une manifestation des victimes du Mediator à Ajaccio.
Cette grande édition vous est présentée par Didier Arnoux, bonjour.
Bonjour, les robes noires rendent hommage à leur ancien bâtonnier. Comme chaque 16 octobre, depuis maintenant 7 ans, les avocats du barreau d'Ajaccio rendent un hommage solennel à Antoine Solacaro, assassiné en 2012, à cette même date. 7 ans après, l'enquête n'a toujours pas touché au but, c'est la GIRS, la juridiction interrégionale spécialisée dans le grand banditisme de Marseille, qui a le dossier en main. Olivier Castel, vous étiez au tribunal d'Ajaccio tout à l'heure. Les avocats et surtout la famille gardent-ils espoir ?
Eh bien oui, Didier, tout le monde garde espoir et tout le monde compte sur la justice pour que l'enquête débouche sur un procès et trouve les coupables. En août 2018, trois hommes, Jacques Santogne, André Bacchioli et Michaele Torri, avaient été renvoyés devant les assises pour l'assassinat d'Antoine Solacaro. Mais le 1er janvier dernier, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a renvoyé le dossier à la chambre de l'instruction. Un complément d'enquête a été ordonné à la demande de la défense et du parquet. Une confrontation devrait avoir lieu bientôt, on ne sait pas quand, entre Jacques Santogne, chef présumé de la bande ajaccienne dite du Petit Bar, et Patrick Giovannone, ce dernier est en quelque sorte un repenti, un collaborateur de justice. Il a pointé directement la responsabilité de Jacques Santogne dans l'assassinat de l'ancien bâtonnier. Seulement aujourd'hui, on ne connaît pas encore la date de cette confrontation. On entend aussi que soit versée dans le dossier une procédure pour trafic d'armes dans laquelle Patrick Giovannone est mis en cause. Un dossier, vous l'aurez compris, d'une grande complexité, face à laquelle l'actuel bâtonnier d'Ajaccio, maître Stéphane Neza, reste déterminé. Lui qui citait Racine tout à l'heure devant une cinquantaine d'avocats, devant le procureur de la République également d'Ajaccio, sur les marches du palais de justice. Ouvrez les guillemets, il n'est point de secret que le temps ne révèle.
Merci Olivier. Olivier Castel, depuis le palais de justice d'Ajaccio, et un hommage a également été rendu sur les marches du palais de justice de Bastia. Si vous êtes propriétaire, vous avez jusqu'à hier pour la payer. Dimanche, si vous passez par Internet, en octobre, il faut s'acquitter de la taxe foncière. Un impôt local qui a beaucoup augmenté ces 10 dernières années. Plus 34% au niveau national, selon le rapport de l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers, l'UNPI, sorti cette semaine. C'est une progression 3,5 fois plus rapide que celle des loyers et de l'inflation. Et la Corse n'échappe pas à ce constat. Entre 2008 et 2018, les taux de taxes foncières ont explosé jusqu'à plus 100% de hausse dans certains petits villages, Hélène Battini.
112% à Altagène, 138% à Hortal et 82% à Grosseto-Prougne. À Haute-Corse comme Corse du Sud sont concernés, mais l'explication n'est pas toujours la même. Dans les petites communes rurales, le taux communal, infime dans la plupart des cas, a souvent été multiplié par 3 ou 4 et combiné à l'augmentation des bases, 2,2% au plan national, c'est le double de l'inflation. La revalorisation des valeurs locatives, parfois, mais aussi la création de nouvelles taxes. C'est le cas à Ajaccio, avec la création de celles liées à l'intercommunalité, mais aussi une régionale, et enfin la fameuse GEMAPI pour le risque inondation. Même si du côté de la cité impériale, c'est surtout la taxe liée à l'enlèvement des ordures ménagères qui explique les 40,93% d'augmentation du foncier en 10 ans. Avec près de 9 points de plus entre 2008 et 2011, la TOM est passée de 13,79% à 22,41%.
Et pour d'autres communes, la réponse est ailleurs. Et la réforme de la taxe professionnelle en 2010 viendrait expliquer un bond de cet impôt à ce moment-là.
À Pietrosé, là par exemple, le maire évoque sa participation à la péréquation nationale née de la disparition de cette TP. Pour lui, si ses impôts locaux sont plus élevés, la commune n'en voit pas forcément la couleur et reverse une grande partie pour cette compensation. En matière de fiscalité, il faut le dire, les cadeaux sont rares. Et à l'heure où sonne la fin de la taxe d'habitation et voyant venir le projet de loi de finances 2020 avec la revalorisation des valeurs locatives datant des années 70, l'Union nationale des propriétaires immobiliers en appelle aux candidats aux élections municipales pour un gel de la fiscalité locale.
Et retrouvez la liste complète des communes insulaires et l'augmentation de leurs taxes foncières depuis 2008 sur notre site internet Bleu RCFM. Depuis ce matin, les élèves du lycée agricole de Borgo se mobilisent pour dénoncer la décision de l'Europe de ne plus financer les parcours pastoraux peu productifs. Il s'agit principalement de maquis dans lequel les bêtes vont paître. Les parcours pastoraux, c'est aussi une problématique, les contrôles de surface, des contrôles qui suspendent le versement des aides aux agriculteurs pendant l'étude de leur dossier par les services de l'État. Conséquence, demain, jour de versement des primes, 900 d'entre eux, sur les 1200 exploitants, ne percevront pas les aides jusqu'ici versées dans le cadre de la PAC, la politique agricole commune. La gestion, la méthode de calcul des surfaces et l'avenir des parcours pastoraux peu productifs inquiètent les agriculteurs insulaires, mais aussi ceux en devenir, les futurs exploitants. Antone Pedro Giocanti est élève en terminale, conduite et gestion d'entreprises agricoles. Son sentiment au micro de Christo Dudicelli.
C'est que plus tard, on va vouloir s'installer. S'il n'y a aucune solution, si les aides sont encore enlevées, on ne va pas pouvoir s'installer. C'est même pas qu'on ne va pas pouvoir s'installer. Ça veut dire que le pastoralisme et toute cette culture agro-pastorale, demain, risque de mourir. Ces aides, oui, elles sont importantes pour faire vivre les exploitations parce qu'il y a de la concurrence, que ce soit avec les industriels ou même les autres pays producteurs agricoles dans l'Europe. C'est très compliqué. Il faut vraiment que l'Europe elle, comprenne que, encore, ce n'est pas comme sur le continent parce que les surfaces fourragères ici, c'est le maquis et c'est de ça que nos races rustiques elles peuvent se nourrir. Elles arrivent à viabiliser le maquis, ce que les races continentales ne font pas. Donc ici, c'est vraiment très particulier en Corse. Et si l'Europe se base sur les pratiques continentales, nous, on n'a pas de prairies, enfin, on en a en pleine, mais c'est vraiment différent du continent. Donc il faut qu'on puisse être aidé et sur ces parcelles de maquis, qu'elles ne soient pas enlevées des aides parce que sinon, ça va vraiment être compliqué.
Une journée spéciale sur France Bleu et France Télévisions. Aujourd'hui, une journée consacrée à la pollution de l'air et aux moyens de lutter contre ses effets. En Corse, par exemple, existe 2 PPA. Ce sont des plans de protection de l'atmosphère. Celui de la région Bastiaise a été adopté pour la période 2015-2020. Celui de la région ajaccienne est en révision en ce moment. Le document est d'ailleurs soumis à enquête publique depuis le mois d'août et jusqu'au 17 octobre. Un plan qui est censé définir une liste d'actions et de mesures à prendre pour les années à venir afin de limiter la pollution de l'air. Problème, selon les associations de défense de l'environnement, la méthode. D'abord, les polluants les plus dangereux pour la santé, à savoir les microparticules, ne sont pas pris en compte dans ce plan. De même que les polluants d'origine naturelle, comme le radon sur Ajaccio ou l'amiante sur Bastia. Jean-Nicolas Antoniotti de l'association Arialinda.
On a fait par le passé, notamment à Bastia, des observations sur les PPA de Bastia, en disant qu'il aurait fallu s'intéresser à la surveillance des particules amiantes, à savoir qu'à Bastia, un nombre important de particules d'amiante présentes de façon naturelle dans le quartier de la gare et dans tout le quartier de la Vallée du Fang, et que ce n'est pas un polluant qui est réglementé alors qu'il devrait l'être. On a le parallèle sur le PPA d'Ajaccio, à savoir que sur le précédent PPA, on a fait remarquer que sur le pont d'Ajaccio, le polluant qui pose problème, c'est le radon. C'est aussi un polluant qui est cancérigène, c'est avéré, et par contre, il n'est pas pris en compte. Au niveau de la surveillance, dans les mesures de fait, il n'est même pas pris en compte. Au niveau des règles de construction qui pourraient être mises en place spécialement, pour qu'on limite son impact.
C'est quand même un vrai problème de santé publique que vous évoquez.
Malheureusement, il n'est pas dans la focale des pouvoirs publics.
Propos recueillis par Alexandre Sanguinetti. Le conseil municipal de Bastia hier, et parmi les rapports adoptés, l'adhésion de la ville à la charte des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens pour aller encore plus loin dans la démarche déjà initiée. Bastia a déjà supprimé l'utilisation de produits phytosanitaires pour l'entretien de ses espaces verts ou en favorisant l'achat de produits de ménage éco-responsables. Par ailleurs, le conseil municipal a également adopté, malgré l'abstention des radicaux et des communistes, l'ouverture d'une ligne de trésorerie de 4 millions d'euros auprès de la Société Générale en cas de besoin. En fin d'exercice, nous aurons de grosses factures à payer sur les différents chantiers engagés par la ville, comme le Mantinum et l'Aldilonde, a précisé Jean-Joseph Massoni, l'adjoint aux finances.
RCFM, toute l'info.
L'info, c'est à Ajaccio, une manifestation des membres de l'association de défense des victimes du Mediator devant les locaux de l'ARS, l'Agence régionale de la santé. À Paris se tient depuis maintenant 2 semaines le fameux procès du Mediator, ce médicament du laboratoire Servier, utilisé comme coupe-faim et qui provoque des maladies cardiaques gravissimes. De nombreux Corses ont utilisé le Mediator, 600 environ, dont Marie-Josée Proctor. Bonjour.
Bonjour.
Le procès se tient depuis une quinzaine de jours maintenant à Paris.
Oui.
Vous le suivez ? Est-ce que vous suivez les comptes rendus dans la presse, voir ce qui se dit ?
Bien sûr, on suit les comptes rendus. Mais ce qui nous intéresse surtout, c'est sur la Corse. Sur la Corse, on n'entend pas grand-chose, par contre. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour la défense des victimes du Mediator. pour les victimes de la Corse.
Il y a à peu près 600 personnes qui en Corse ont pris le Mediator, dont vous. Vous avez pris ce médicament durant de nombreuses années. Aujourd'hui, moralement, et je dis bien moralement, comment on vit votre situation ?
Écoutez, on vit la situation, on est bien obligé de faire avec, mais bon, nous ne sommes pas suivis du tout. Je pense qu'on a on aurait besoin d'être pris en considération parce que il se passe rien. Ça fait 10 ans que nous sommes en procès et nous n'arrivons au bout de rien. Voilà, je suis désolée de vous dire ça, mais c'est comme ça.
Vous n'êtes pas reconnue comme victime déjà ?
Pardon ?
Vous n'êtes pas reconnue déjà comme victime ?
Non, on n'est pas reconnue. Non, pas du tout. Pas du tout. Même moi qui avais un dossier qui était bien ficelé, avec des preuves à l'appui, je ne suis pas prise en considération. Je vais vous expliquer en gros. En 2011, nous avons eu une réunion à la salle des congrès avec des experts et ils ont reconnu que mon dossier il était clair, net et précis. Je peux vous assurer que en 2000, ayant passé une échographie et je n'avais aucune trace de fuite mitrale, tout allait bien. En 2004, je repasse une échographie alors que je venais de prendre le Mediator depuis 2002. Je me retrouve avec une fuite mitrale de 1 sur 4 et toujours rien. On nous prévient pas, on continue à prendre le Mediator. Moi, ça a duré 7 ans. Jusqu'en 2009, lorsque on nous prévient d'arrêter tout, d'arrêter le Mediator, c'est dangereux, d'accord. On refait une échographie à tout le monde, à toutes les victimes. Et moi, mon cas était déjà fuite mitrale à 2 sur 4. À 3 sur 4, on tombe dans le coma et il faut opérer. Bon, j'ai eu de la chance. Mais nous sommes vraiment les oubliés de ce procès.
Alors justement, l'association de défense des victimes du Mediator dont vous faites partie, c'est portée partie civile, qu'est-ce que cela apporte ? Est-ce que c'est peut-être déjà la reconnaissance déjà d'un statut ?
Peut-être, oui, on avance quand même. Oui, on va se porter partie civile. Parce qu'on ne peut plus rester comme ça, dans l'ignorance, hein, parce que nous ne sommes vraiment pas considérés. Même à une expertise de Villerousse, où j'ai donc passé une expertise à Villerousse, pareil, j'étais en face des médecins conseils du laboratoire Servier, médecins conseils, les avocats, et moi, j'étais seule en face d'eux, en train de leur expliquer. L'expertise était là, mais c'était vraiment, il nous dédaigne, c'est le mot. Je me retrouvais là, dans la fosse aux lions, seul contre tous. Et en plus, quand je leur disais que j'avais un dossier bien ficelé, il y avait des petits ricanements, enfin, ils se moquaient presque.
Marie-Josée Proctor.
J'ai pas supporté.
Marie-Josée Proctor. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de ce procès ? Est-ce que vous attendez que les laboratoires Servier disent « Ok, on s'est trompé, nous sommes responsables
oui. ».
Qu'est-ce que vous attendez ? Une reconnaissance financière, une reconnaissance morale ?
Une reconnaissance morale d'abord, et une reconnaissance financière ensuite. Parce que nous vivons, enfin moi personnellement, je parle au nom de tous ceux qui je représente tout le monde là, hein, tous les Corses qui ont été atteints par le Mediator, et on n'arrive pas, je voudrais qu'ils reconnaissent au moins que nous sommes leurs victimes à eux, nous sommes leurs victimes. Et je vois que ça n'avance pas. On a tous à peu près la même vie, une vie au ralenti. Moi, je vois que j'ai un appareil respiratoire pour la nuit. J'ai une insuffisance cardiaque. J'ai 80 apnées à la minute, à l'heure, donc 80 apnées. je suis obligée de dormir avec un appareil respiratoire et sinon je risque même de mourir dans mon sommeil.
Merci Marie-Josée Proctor pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes membre de l'association des victimes du Mediator. On change de sujet, on passe à l'environnement avec le compostage des biodéchets. Enjeu majeur pour résoudre la problématique du tri des ordures ménagères, les biodéchets, ça représente à peu près 30% de nos poubelles. Ça englobe tout ce qui est alimentaire ou d'origine naturelle. Aujourd'hui, l'objectif est de trouver des solutions pour diminuer notre taux d'enfouissement. Et on voit cela avec vous, Maxime Beckmer.
Composter les matières organiques, c'est l'une des solutions pour atteindre l'idéal du zéro déchet. Mais on a du retard, comme dans d'autres régions, il y a des blocages.
C'est des a priori. Le compostage, c'est rétrograde, c'est moche, ça pue.
Francis Collin, expert dans le traitement et la valorisation des biodéchets.
C'est d'autant plus important en Corse que vous n'avez pas de solution de traitement. Donc vous enfouissez tous vos déchets, un tiers des biodéchets. Les déchets sont donc enfuis et ça c'est complètement interdit par la loi et donc on doit valoriser ces biodéchets, on ne peut plus les enfuir et vous avez en plus de place dans vos centres d'enfouissement, donc c'est vraiment une bonne opportunité.
Il y a néanmoins des initiatives plus ou moins efficaces selon les territoires. Serge Bérény est chargé de la collecte des ordures en Costa Verde.
Nous avons déjà largement travaillé en faisant la collecte des biodéchets au niveau des socioprofessionnels qui nous permet aujourd'hui de détourner 450 tonnes et aujourd'hui chez le particulier nous pensons qu'il y a une flux important donc, de cette matière organique et nous allons travailler en la détournant à l'aide de composteurs individuels qu'on a déjà mis en place.
Pour cela, les collectivités locales doivent mettre des moyens humains et financiers. Sophie Dallest-Franck, qui est responsable du tri pour la communauté de communes de Calvi-Balagne.
Il faut leur donner le bio-seau, il faut leur donner la plaquette d'information, il faut leur expliquer directement dans les foyers. C'est pour ça que mes ambassadeurs du tri, nous, ils vont dans les foyers pour vraiment sensibiliser et informer les habitants.
Mobiliser les habitants, former les agents, il reste du pain sur la planche avant de le composter.
Et on reste sur cette thématique des déchets avec la Semaine européenne de réduction des déchets. Invité de ce journal ce midi, Pierre-Olivier Philippe, ingénieur en économie circulaire à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et il répond aux questions de Maxime Beckmer.
RCFM, l'invité de la rédaction.
Bonjour Pierre-Olivier Philippe, et dans le cadre de cette préparation de la Semaine européenne de réduction des déchets, aujourd'hui on parle de prévention, prévenir les déchets, éviter leur production, c'est ce qui est recherché à travers l'économie circulaire.
Absolument, en fait, une des finalités de l'économie circulaire, c'est de réduire beaucoup de choses en fait. Réduire les impacts sur l'environnement, réduire la consommation d'énergie et aussi réduire les déchets. Je ne vous donne pas toute la panel, mais en fait, c'est effectivement diminuer globalement les impacts sur l'environnement et ça se traduit par beaucoup de choses. Et bien évidemment, réduire les déchets peut être effectivement abordé par la question de l'économie circulaire à travers différents concepts qui permettraient à chacun de s'y repérer et de pouvoir aborder la question, non pas forcément dans l'entrée un peu fermée du déchet ou pas, ça peut être le cas si vraiment le déchet est significatif, si vraiment il apporte parce qu'on a été sensibilisé sur cette question-là, on peut peut-être traiter le déchet et s'armer finalement pour essayer de faire en sorte de le diminuer, mais on peut aussi l'aborder à travers la question économique, on peut aussi l'aborder à travers la question de productivité. On peut l'aborder aussi à travers la question de conception de son entreprise ou d'amélioration de la conception de son entreprise ou d'amélioration des process de fabrication, des process de service, etc. Et à un moment, d'une façon conséquentielle, on va aussi tomber sur la réduction des déchets.
Vous accompagnez, vous préparez les entreprises vers ce système vertueux.
C'est ça, en fait, notre rôle consiste en fait à les conseiller face à une problématique. Soit les entreprises viennent vers nous, soit on va les chercher selon les méthodes, en fait. Si on part sur une démarche territoriale, écologie territoriale, on va peut-être aller chercher l'entreprise, mais on va en même temps la susciter, l'appeler. Peut-être qu'elle va venir aussi d'elle-même parce qu'elle va s'apercevoir que finalement, dans une démarche territoriale, il y a son voisin qui s'est lancé dans telle démarche et puis que je peux peut-être aussi y aller. Voilà, donc ce sont des émulations un peu sociologiques quelque part qui permettent aussi ce genre de choses. Alors donc, on conseille l'entreprise, elle vient ou elle vient pas.
Vous ciblez quel type d'entreprise ?
Alors, toutes les entreprises. Il y a même pas. Il y a également aussi les associations. Et puis, il y a également aussi les collectivités locales. Tous les acteurs sont concernés. Dans l'économie circulaire, tous les acteurs sont concernés et tout le monde peut en réalité. Alors, déjà, tout le monde produit des déchets, tout le monde contribue directement ou indirectement à produire des déchets et tout le monde, par conséquent, est en capacité, plus ou moins bien, plus ou moins facilement, parce que s'il y a beaucoup d'interactions, de diminuer ses propres déchets.
Quelle est la marge de progression qu'ont, par exemple, les professionnels de la restauration, les professionnels du BTP ?
Alors, par exemple, comme vous parlez de la restauration, on peut, par exemple, parler de la lutte contre le gaspillage alimentaire. On s'est aperçu qu'on peut avoir une marge de progression assez rapide et assez simple. simple de 30%. C'est-à-dire, grosso modo, on peut très facilement réduire de 30% sa consommation, sa production de déchets alimentaires dans un programme de lutte contre le gaspillage alimentaire. Et on a même un exemple d'ailleurs en Corse, au centre Corse, qui a carrément réduit à zéro sa production de déchets par un système vraiment de... Alors zéro, c'est peut-être un peu juste quand même, parce qu'on a toujours un peu des épluchures, mais en même temps, si vos épluchures, vous les mettez dans un compost et que vous dosez les repas en fonction peut-être du client, on arrive vraiment, on tend vraiment vers le zéro. Hein. C'est très, très, très intéressant. Imaginons que tout le monde fasse ça. Alors, c'est un vœu pieux, mais on peut y arriver progressivement hein, avec le temps.
Quels sont vos moyens, les moyens de l'ADEME pour ramener les entreprises vers cet objectif zéro déchet et faire le travail à leur place?
Le travail à leur place, c'est-à-dire qu'il faut les amener en fait à se poser des bonnes questions et se dire, zut, tiens, je prends conscience de quelque chose. Mais on est de plus en plus sensibilisés. On voit très bien on a beaucoup d'émissions, beaucoup de gens qui témoignent, etc. On sent très bien qu'on a un problème. Et puis, une fois qu'on a l'entreprise ou l'acteur entre les mains, on essaye de lui donner des outils méthodologiques, par exemple. On lui met entre les mains des compétences, des ressources humaines, des gens qui peuvent aussi, parce que toute la richesse finalement, c'est un peu la complémentarité des compétences, des ressources. Et puis, on lui donne de l'argent aussi, de temps en temps, si je puis dire, qui lui permet de faciliter finalement sa trésorerie et sa gestion financière par un jeu de subventions qui baisse finalement ses charges.
Mais au final, la prévention des déchets, ça manque de structuration aujourd'hui en Corse. Il y a des initiatives à droite à gauche, mais ça manque de globalisation.
Alors, c'est vrai que c'est des initiatives qui sont mises en place un peu partout. En même temps, ça commence un peu à se structurer parce que c'est vrai que dans l'économie circulaire, on a des actions qui peuvent être très locales. C'est l'entreprise elle-même ou l'acteur lui-même qui va faire sa propre action. Quand vous avez par exemple une collectivité locale qui s'engage dans une démarche comme celle-ci, comme la CAPA sur le programme Zéro Déchet, Zéro Gaspillage, là on est déjà plus dans une structuration territoriale puisque finalement la collectivité locale a une compétence. Et on peut également aussi, dans le monde de l'escarcelle du privé, du monde économique, en mélangeant les collectivités locales, les entreprises, les associations, on réussit aussi à structurer de plus en plus parce qu'on met en place des synergies, on travaille de plus en plus en business to business, business to consumer, en B2B to B2C, et automatiquement, en fait, on déclenche des interactions entre acteurs. Là, les gens ne sont plus seuls. Et de ce fait-là, à partir du moment où on rentre dans une dynamique collaborative et qu'il y a des actions et des communes qui se font, là, on commence en fait à structurer le territoire, à mailler le territoire.
Pierre-Olivier Philippe, merci beaucoup.
Merci à vous. Au revoir.
RCFM, toute l'info.
Et l'info, c'est aussi l'économie avec l'INSEE, l'Institut National de la Statistique, qui publie une étude exhaustive. Salaire et conditions d'emploi, analyse des 12 principales branches insulaires. 48 pages qui décortiquent le quotidien économique de l'hôtellerie, l'automobile, le tourisme, le transport routier, la boulangerie-pâtisserie, les travaux publics, etc., etc. Pour en parler, Magali Bonnefond, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du service études et diffusion de l'INSEE de Corse. Vous avez travaillé sur cette étude. 12 branches professionnelles sont décortiquées, je le disais. D'abord, à quoi sert cette étude et à qui s'adresse-t-elle?
Alors, cette étude, nous l'avons réalisée en partenariat avec la Direct et l'Agence de développement économique de la Corse, qui souhaitait avoir des éléments précis et chiffrés sur les conditions d'emploi et de salaire dans les principaux emplois de l'économie insulaire. Donc, ils avaient des besoins de meilleures connaissances, hein, de quels sont les emplois que l'on trouve sur l'île, mais aussi avoir des éléments qui leur permettent de négocier dans le cadre des conventions collectives, des améliorations pour les salariés.
Alors, à la lecture de cette étude, on se rend compte qu'il y a vraiment de grosses disparités entre les branches, les conditions de travail, les salaires. Est-ce que cette étude peut aussi servir de carrefour professionnel pour les jeunes, leur montrer que si on veut gagner sa vie, le transport aérien, c'est plus rémunérateur que le tourisme?
Alors oui, ça peut servir dans tous les sens. Ça peut servir aux employeurs à s'interroger sur leurs pratiques de rémunération et de conditions de contrat de travail. Ça peut servir aussi effectivement aux jeunes pour comprendre dans quel secteur ils vont avoir les meilleures conditions d'emploi et donc faire les études qui correspondent aux qualifications qui sont recherchées.
Quels sont les rapports avec les chefs d'entreprise lorsque l'INSEE débarque et effectue le sondage?
Alors, nous, sur cette étude-là, nous avons utilisé une source administrative, qui sont les déclarations annuelles de données sociales, qui sont des déclarations que les entreprises remplissaient, puisqu'aujourd'hui le système a changé, on est passé à la déclaration sociale nominative, mais remplissaient jusqu'en 2016-2017, hein, puisque le changement s'est fait progressivement, pour chacun de leurs salariés, avec une description donc du type de poste offert dans l'entreprise, du type de contrat de travail et de rémunération. Et c'est à partir de la compilation de ces déclarations sociales que nous pouvons traiter sur un ensemble précis, une branche ou un secteur d'activité, des conditions d'emploi qui sont offertes.
On se rend compte que la situation de la Corse évolue peu, avec un salaire horaire brut moyen de 15,20 € contre 17,10 € en France de province, ça veut dire hors Paris, hein, où les salaires sont différents. Est-ce que les salaires progressent en Corse ? Est-ce que la Corse rattrape son retard ?
Alors là, nous n'avons pas fait d'études en évolution. Nous avons voulu faire une photo et s'intéresser vraiment à la structure de l'emploi. Le salaire régional progresse évidemment comme ailleurs, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que cet écart de salaire, il est essentiellement lié à des différences de structure du tissu économique. Par exemple, nous avons très peu de secteurs financiers en Corse, qui sont des secteurs hautement rémunérateurs, de même que d'industrie. Donc, il est normal qu'en moyenne, on ait un salaire horaire quand on l'ensemble des salariés qui soit plus faible. Il reflète le tissu productif que nous avons sur l'île. Et de même, quand on considère une branche spécifique, hein, que ce soit l'hôtellerie-restauration ou le bâtiment, quand on compare le salaire moyen avec celui que l'on trouve dans la même branche en province, il faut regarder l'impact de la différence de la composition de la branche dans l'île. Par exemple, le fait qu'on ait moins de grands établissements va peser négativement sur le niveau des salaires, le fait qu'on ait moins de cadres aussi. Donc dans le dossier, on a à la fois les écarts de salaire brut, mais aussi les écarts qu'on appelle corriger des effets de structure. Donc, quand on neutralise un petit peu la différence de composition du tissu productif, et là, on voit que parfois, des écarts qui apparaissent négatifs peuvent devenir positifs.
Merci Magali Bonnefond, chef du service études et diffusion à l'INSEE de Corse, pour une étude que l'on peut parcourir sur le site internet. On part maintenant en Méditerranée. Les lagunes méditerranéennes entre pêche patrimoniale et défis d'un développement durable. C'est le titre d'une conférence prononcée à Stellamar par le professeur Daniel Faget. C'est le thème choisi par Pierre-Louis Alessandre et pour Marie Ladine.
RCFM en Méditerranée.
Connaissons-nous bien nos lagunes, celle par exemple de Bigouille, toute proche de Bastia, et qui, il était venu, draine des milliers de baigneurs qui abritent aussi des centaines d'habitants. Mais ces lieux qui ponctuent les littoraux de Méditerranée sont de véritables conservatoires patrimoniaux, celles de techniques artisanales de pêche, d'espèces endémiques comme la dorade. Dans ces lagunes, pas de pêche intensive, mais mesurée, pas de chalutage, les pêcheurs sont en prise directe avec le milieu. Ces lagunes qui n'échappent pas aux changements, parfois brutals, comme à Venise, mais qui demeurent des milieux d'où peut partir un renouveau marin. Alors, nos lagunes seraient-elles l'espoir d'un développement maritime durable ? Réponse du professeur Daniel Faget.
Vous avez deux types de lagunes dans votre île. Vous avez d'une part des lagunes qui sont toujours mobiles, toujours en cours de formation ou d'évolution. Par exemple, Bigouille. Exemple de la lagune de Bigouille, vous pouvez le reporter sur les littoraux continentaux. C'est Palava, c'est l'Efkade en Grèce. Et puis, vous avez aussi en Corse des lagunes tectoniques qui sont issus de l'effondrement d'une portion du rivage, qui sont souvent plus profondes, à l'exemple de l'étang de Diane, qu'on peut comparer finalement au lac de Bizerte ou à la lagune de Hieras à Lesbos. Elles ont cependant une particularité, c'est leur importance socio-économique dans l'histoire de l'économie méditerranéenne. Les lagunes sont des conservatoires, je dirais, des pêches patrimoniales. Elles ont eu, au cours de l'histoire de la Méditerranée, elles ont occupé une importance très grande, en particulier entre la fin de l'Empire romain et les débuts de l'époque moderne. Elles ont en commun un certain nombre de techniques de pêche qu'on ne retrouve que dans les zones lagunaires. Je pense en particulier aux verveux ou encore aux bordigues, qui sont des techniques très très particulières et qui sont propres aux lagunes. Ces lagunes, elles sont le laboratoire du changement global. Les changements sont importants aujourd'hui en Méditerranée, avec une montée régulière des eaux marines. Et donc ce sont dans ces lagunes-là que des solutions vont devoir être trouvées rapidement pour faire face au changement global.
Quant au projet de nouveau port à Bastia, qui sera plus proche du cordon lagunaire de Bigouille, on ne touche jamais impunément au trait de côte, c'est le constat de Daniel Faget.
On parle maintenant de sport, de vélo. Et après les vélos classiques, après le cyclotourisme, après les vélos à assistance électrique, un nouveau type de vélo, Jean Prounette, les vélos solaires.
RCFM, le sport.
Ne soyez pas étonnés si vous voyez passer sous vos yeux de drôles d'engins à pédales, style Satanas et Diabolo, pour les fans de ce vieux dessin animé. Ces drôles d'engins sont des prototypes, pratiqués assis ou allongés, avec pour tous au-dessus de la tête, un petit toit comportant des panneaux solaires. Des pionniers, avec pour guide Florian Baizeli, le patron du Suntrip Company.
Tous les participants de Suntrip sont un peu des pionniers du vélo solaire, ce qui fait aussi le charme du projet. Certains arrivent à construire le vélo solaire dans leur garage en regardant des tutos sur internet ou en se faisant aider par des spécialistes. Et puis il y a certains participants, eux, qui se sont rapprochés d'acteurs économiques du monde du vélo et du vélo électrique qui commencent à s'intéresser au vélo solaire.
La douzaine de Suntrippers partie de Bastia va emprunter la toute nouvelle GT20, la Grande Traversée, présentée cet été par l'agence du tourisme. De Saint-Florent à Bonivazio, en passant notamment par Calenzane, Porto, Corte ou Tsonza. Pas de compétition pour cette première édition test dans l'île, mais la préparation de quelque chose de bien plus grand.
Il y en a qui viennent se tester ici en Corse pour l'année prochaine partir entre Lyon et Canton, 12 000 km sur les nouvelles routes de la soie. Donc il y a trois engins qui vont partir, là, qui viennent tout juste être terminés. Et les participants profitent de cette édition test du Corsica Suntrip pour venir voir si ça tient la route.
Deux insulaires, cofondateurs de ce Suntrip local, Frédéric Véran et Stéphane Clémeau, représenteront la Corse dans cette méga aventure touristico-sportive. Mais pour ce dernier, il s'agit aussi à travers elle de faire la promotion du vélo solaire.
Aujourd'hui, le cyclotourisme et le vélo en général est en forte progression depuis ces 10 dernières années. Le vélo assistance électrique permet tout type de personnes de pouvoir faire du vélo sur des longues distances, des petites distances. Et je pense qu'il y a un enjeu à la fois sur une pratique pour la population locale, notamment des engorgés nos villes et d'automobiles, mais aussi une pratique touristique. C'est en plus une activité propre, de pleine nature, qui correspond bien à l'image de la Corse.
En attendant, on croise les doigts pour que ces Satanas ou Diabolos du vélo solaire aient assez de soleil justement pour recharger les